Bien, bonjour Joseph. Vraiment la bienvenue. C'est un privilège pour moi de pouvoir être là ce matin et de pouvoir vous revoir ou de pouvoir vous rencontrer. C'est la première fois que vous êtes parmi nous. Comme Alex l'a dit, nous allons ouvrir la Bible. La Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Nous croyons que Dieu nous parle au travers de sa parole, par son esprit. Je vous invite à la prière avant toute chose. Prions. Notre Dieu, notre Père, à l'heure où nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, la Bible, nous prions que tu ouvres nos cœurs et que tu y déverses ce que tu veux y déverser. S'il te plaît, nous prions que, au travers de cette parole, ton Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Quelques jours après Noël, je ne peux résister au plaisir de vous lire l'une des toutes premières lettres que j'ai écrites au Père Noël. Je vous la lis, je l'ai retrouvée en faisant du rangement il y a quelques jours. Pau, je suis originaire de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est là où je suis né, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. Le 20 décembre 1979, je suis né le 27 avril 1977, donc à l'époque j'avais 2 ans. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre, d'accord ? Mais que c'est mon papa, ok ? Mon cher Père Noël, je m'appelle Jonathan Chintrier, c'est moi, et j'habite à Pau, mon adresse. Pour Noël, j'aimerais que tu m'apportes une grosse moto, une bicyclette, une petite moto, c'est tout. Je suis sage et j'obéis à mon papa, à ma maman et à Plouf, c'était notre chien à l'époque. J'espère, cher Père Noël, que tu n'oublieras pas ce que je te demande, et je te promets d'être toujours un petit garçon sage, signé Jonathan, moi-même. Bien sûr, une lettre écrite par mon papa. 30 ans après avoir écrit cette lettre par l'intermédiaire de mon père, j'ai une confession à vous faire. Cette confession, c'est celle-ci, c'est que je n'ai pas toujours été sage. C'est pas vrai. J'ai pas toujours été sage, je n'ai pas gardé ma promesse. Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit Rémi ? Alors si vous vous appelez Rémi ce matin, c'est une histoire, d'accord ? Pas de problème. Le petit Rémi, c'est quelqu'un qui ne croit pas au Père Noël, c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Et qui, comme chaque année, écrit à Jésus pour avoir ses cadeaux de Noël, normal. Alors il commence à écrire sa première lettre, d'accord ? Cher Jésus, cette année j'étais très très sage. Et là il commence à réfléchir et il commence à penser à toutes les fois où il a désobéi à sa maman. Alors, il se débarrasse de sa première lettre et il recommence tout à zéro. Cher Père Noël, cher Jésus, pardon, cette année, j'ai été sage. Et là, il prend un temps de réflexion, puis il commence à toutes les fois où il a désobéi à son papa. Pas terrible. Il recommence. Troisième lettre. Cher Jésus, cette année, j'ai été sage. Et puis là, il commence à réfléchir. Et il commence notamment à penser à toutes les misères qu'il a fait à son chien et à son chat. Et alors là, il est désespéré, le petit Rémi. Et c'est Noël, donc il y a la crèche à proximité de lui, en bas du sapin, vous savez, donc avec le bœuf, l'âne, Joseph, Marie, le petit Jésus. Et puis il prend, vous savez, les petites figurines de Marie qu'on trouve dans la crèche. Vous savez, c'est des petites figurines faites de divers matériaux. Et puis Et puis il la met dans sa poche. Et là, il recommence. Quatrième lettre. Cher Jésus, si un jour tu veux revoir ta mère... Ok, il veut avoir des cadeaux, hein, d'accord. Qui peut dire qu'il a toujours été sage en 2009 ou pendant sa vie? John Wesley, prédicateur britannique assez influent dans l'histoire de l'Église, un jour est en voyage dans ce qui était à l'époque les colonies américaines. Et un jour, il rencontre le général Oglethorpe, pour la petite histoire. Le général Oglethorpe, c'est un homme qui a la réputation d'être un militaire assez dur, vous savez, quelqu'un d'assez difficile. Et un jour, le général Oglethorpe fait cette confession à John Wesley, il lui dit « Vous savez, moi, monsieur Wesley, qui est prédicateur, pasteur, je ne pardonne jamais à rien, à qui que ce soit. » Ce à quoi John Wesley répond « J'espère que vous ne péchez jamais. » Sous-entendu, j'espère que vous n'offensez jamais personne et que par conséquent, vous n'avez jamais besoin de demander pardon à qui que ce soit. Qui n'a jamais péché dans sa vie? Qui? Qui n'a jamais commis la moindre erreur? Qui n'a jamais péché en parole, en acte, en pensée contre Dieu, ou même si l'on ne croit pas en Dieu, contre certaines personnes de notre entourage, des membres de notre famille, des amis, peut-être des inconnus dans la rue, qui n'a jamais offensé personne, qui n'a jamais eu besoin de demander pardon à quelqu'un. Alors si comme moi, si comme le petit Rémi, vous reconnaissez que vous n'avez pas toujours été sage, si vous reconnaissez que vous avez parfois offensé certaines personnes, Dieu lui-même peut-être, et que vous avez besoin d'être pardonné comme moi, moi le premier. Ce message, assez bref, le message de Noël est pour vous, il est pour moi, il est pour vous. Le message de Noël, au-delà du Père Noël, au-delà du sapin de Noël, au-delà de la bûche de Noël, au-delà de la dinde de Noël, le message de Noël, c'est le jour où Jésus est venu dans le monde. Et le passage que nous allons lire ce matin dans le livre de Jean explique clairement, très clairement, le sens de cette venue. Donc avant de lire ce passage ensemble, je vous rappelle juste le contexte du livre de Jean, qui est un livre extraordinaire. Ça fait partie des biographies de Jésus, les biographies de Jésus, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce livre de Jean est ponctué notamment par cette parole de Jésus, cette parole qui nous aide à comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Ces paroles, ce sont des « je suis ». D'accord ? Tout commence au chapitre 6, au verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 10, verset 7, « Je suis la porte ». Verset 11, « Le bon berger ». Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie ». Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 15, verset 6, « Je suis le vrai cep ». Ce qu'il y a de très intéressant, tenez-vous bien, c'est que, en fait, certaines de ces paroles sont associées à ce que Jean appelle des signes. Les signes, en fait, ce sont ce que les autres évangiles appellent des miracles, qui nous aident à comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et c'est le cas notamment au chapitre 6. Par exemple, au verset 11, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et que fait-il un peu plus tard? Il ressuscite un mort. Il ressuscite Lazare. Vous voyez comment Jésus, par ce miracle, atteste qu'il est bel et bien la résurrection et la vie. Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Qu'est-ce que fait Jésus au chapitre 9? Il ouvre les yeux d'un aveugle. Il est la lumière pour quelqu'un qui ne voit pas. On se trouve dans le même cas de figure au chapitre 6. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et qu'est-ce que Jésus fait? Dans le même chapitre, il multiplie le pain pour une foule de personnes. Vous voyez comment ça marche, comment certains signes, en fait, sont associés à des paroles de Jésus. Et c'est le cas du chapitre 6, d'accord? Et notamment du passage que nous allons étudier ce matin. Je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans le livre de Jean, au chapitre 6, des versets 38 à 40. Jean, chapitre 6, versets 38 à 40. En effet, dit Jésus, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Jésus, dans ce passage, s'adresse à une foule de gens, en fait, qui ont notamment assisté au miracle que Jésus a fait. Et parmi ces personnes, il y a certaines qui ne croient pas en lui. Mais quel est donc le sens de la venue de Jésus? J'ai deux points ce matin. J'espère que vous pourrez les retenir, peut-être, pour Noël. Et ces deux points se trouvent au dos de vos bulletins. Donc, si vous retournez vos bulletins, vous avez le plan de ce message qui, je l'espère, vous aidera à suivre ce que nous allons voir ensemble. La première chose, comme vous pouvez le constater, c'est que Jésus est descendu du ciel. C'est le verset 38 qui le dit. En effet, je suis descendu du ciel. Et là, vous allez me poser la question, mais comment est-ce que Jésus est descendu du ciel? Je vous répondrai que Jésus n'est pas descendu du ciel en parachute, sur un nuage ou sur un traîneau magique tiré par des rênes supersoniques, mais Jésus est descendu du ciel dans le sens où il s'est incarné, dans le sens où il est devenu homme, lui qui en tant que Dieu a toujours existé. Exact. Lui qui en tant que Dieu a toujours existé. C'est ce que dit le prologue de Jean notamment. Lui qui a tout créé, il a renoncé pour un temps, imaginez, à sa demeure céleste auprès du Père, pour venir habiter dans notre monde, ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, pour partager notre humanité, notre condition humaine, à l'exception de notre nature pécheresse. Au début de son mandat présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing, alors je fais appel à vos souvenirs d'antan, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un président de la République française, sous la Ve République, qui a succédé à Georges Pompidou, notamment, en 1974, il a été président, de 1974 à 1981, et vraiment, Giscard d'Estaing a voulu se montrer très proche des Français. Et dans cette volonté d'être proche des Français, eh bien, VGE, comme on l'appelle un petit peu affectueusement aujourd'hui, a renoncé, le temps de quelques soirées, au repas princier de l'Élysée. L'Élysée, c'est là où habite le président de la République. Il a renoncé, le temps de quelques soirées, au repas luxueux et princier de l'Élysée pour aller dîner chez des familles modestes et anonymes et pour partager leur vie quotidienne. Alors, je suis conscient que cette illustration a des limites. Elle n'est pas parfaite, mais c'est un peu, vous voyez, ce que Jésus a fait. En renonçant pour un temps à demeurer dans son palais présidentiel, dans son palais céleste, auprès du Père, pour naître non pas dans le confort d'une maternité moderne, mais comme on l'a chanté tout à l'heure, dans l'inconfort, dans l'humilité d'une mangeoire peut-être entre un bœuf et un âne pour la petite histoire, et pour venir vivre dans notre monde. Certaines personnes estiment que le jour le plus important de l'humanité a eu lieu le 20 juillet 1969. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le 20 juillet 1969. Bien, très très bien. Neil Armstrong, 20 juillet 1969. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Vous vous rappelez, non? 20 juillet 1969, Neil Armstrong. Eh bien, selon la Bible, en fait, le jour le plus important de l'histoire de l'humanité n'est pas tant le jour où l'homme a marché sur la Lune, mais le jour où Dieu en personne a marché sur la terre, le jour où Dieu en personne, dans la personne de Jésus, a marché sur la terre, le jour où Jésus est descendu du ciel, où il est devenu un homme, pour venir vivre parmi nous. Mais pourquoi est-ce que Jésus est descendu du ciel? Dans quel but? Eh bien, la réponse se trouve au verset 38, que je vous invite à relire Jean chapitre 6 verset 38. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jésus n'est pas descendu du ciel pour faire sa volonté de manière indépendante, un peu comme un mercenaire qui n'en aurait fait qu'à sa tête. Jésus est descendu du ciel pour agir conformément à la volonté du Père. Jésus est descendu du ciel pour agir en conformité avec la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous avez vu, c'est répété deux fois au verset 38 et au verset 39. Pour agir conformément avec la volonté de son Père, qui est explicité au verset 40. Volonté à laquelle il a toujours parfaitement obéi et à laquelle il s'est toujours parfaitement soumis. D'où le second point que vous avez derrière vos bulletins. Premièrement, Jésus est descendu du ciel. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire la volonté du Père, qui n'est pas la volonté du Père Noël, vous en êtes bien conscient, mais de Dieu le Père. Et quelle est cette volonté? En substance, quelle est cette volonté? La réponse, encore une fois, se trouve dans le texte que nous avons lu. Regardez le verset 39, par exemple. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. J'ouvre une petite parenthèse grammaticale, rassurez-vous, 30 secondes, d'accord? Nous avons ce qu'on appelle en français les genres, d'accord? Les genres, le masculin, le féminin. Ça donne parfois beaucoup de problèmes à nos amis anglophones qui apprennent le français. Une table ou un table. Mince, en fait c'est féminin. Pourquoi? On n'en sait rien, c'est comme ça, d'accord? En français, on a des genres. En grec, c'est un peu plus compliqué, on a trois genres. On a le masculin, le féminin et le neutre. Et bien dans le texte original, en fait, l'adjectif « tout » est au neutre. Si bien que certaines versions traduisent que Jésus ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné. Ça paraît très bizarre comme ça. Mais en fait, c'est simplement une expression sémitique, juive, que l'on pourrait très bien traduire par « aucun ». Si bien qu'on pourrait très bien comprendre et traduire, je pense que c'est le cas, que Jésus ne perde aucune personne que le Père lui a donné. Fin de la parenthèse. J'avais promis, pas trop long. Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Est-ce que vous avez conscience du sens profond de ce que ce verset est en train de nous dire, dans sa souveraineté, dans le fait qu'il contrôle et qu'il maîtrise toute chose, que rien ne le surprend? Dieu, le Père, a donné des hommes et des femmes à Dieu. Le Fils, le Père, a donné des hommes au Fils. Il a souverainement, je serais même tenté de dire parfois mystérieusement, œuvré au travers de la volonté et de la liberté individuelle de certaines personnes pour qu'ils croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Autrement dit, si vous croyez en Jésus, si vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, si vous êtes venu à Jésus par la foi, écoutez bien, cela veut dire que vous avez été donné au Fils par le Père. Je répète, si vous êtes venu à Jésus par la foi, cela veut dire que vous avez été donné au Fils par le Père. Le Père vous a donné au Fils. Et quelle est la volonté du Père pour vous? La réponse est dans le texte. C'est que le Fils ne perde pas. Autrement dit, si vous croyez que Jésus est le Christ, si vous croyez en Jésus, si un jour vous êtes devenu chrétien, si vous suivez Jésus en vous soumettant à sa volonté, notamment morale, pour vos vies, vous avez souscrit une assurance tout risque, encore mieux qu'à la Maïf. La Maïf, c'est une compagnie d'assurance auprès de laquelle vous pouvez souscrire des assurances tout risque, ce que j'ai fait il y a très peu de temps. Mais lorsque vous êtes devenu chrétien, vous avez souscrit une assurance tout risque. Vous êtes en sécurité, vous êtes entre de bonnes mains. Jésus est le bon berger. Rien, absolument rien ne pourra vous arracher de sa main. Pas même la mort, n'est-ce pas extraordinaire? N'y a-t-il pas là l'une des paroles les plus réconfortantes de tout le Nouveau Testament, peut-être de toute la Bible, en ce qui concerne la sécurité du croyant? Telle est la volonté du Père qui veut que le Fils ne perde rien, aucun, de tout ce qu'il a donné au Fils, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. C'est le deuxième aspect de la volonté du Père que vous avez au verset 39 et 40. Je vous invite à relire ces versets ensemble. « Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. » Et puis au verset 40, « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et moi, répétez une seconde fois, je le ressusciterai. » Le dernier jour. Alors le dernier jour auquel Jésus fait référence, je pense qu'il s'agit non pas du dernier jour de notre vie, qui aura lieu un jour, certes, mais je pense que Jésus est en train de parler ici du dernier jour de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il est en train de parler du jour où Jésus reviendra sur Terre. Et ce retour, comme chacun sait, aura lieu en 2012. Non, je rigole. C'est uniquement selon le calendrier Maya, d'accord, et selon un film du même nom, ou plutôt, devrais-je dire, du même nombre, 2012. J'ai déjà fait référence à cet exemple il y a quelques semaines. Je n'y reviens pas, d'accord? En fait, quelle que soit l'année à laquelle intervient le retour de Jésus, ce que nous ne savons pas, ce que même Jésus dans son humanité ne sait pas, ce qui est sûr, ce qui est absolument sûr, c'est que Jésus, qui est lui-même ressuscité, corporellement, physiquement, promet qu'il n'abandonnera pas ceux qui ont été confiés, ceux qui lui ont été confiés, ce que le Père lui a donné, qu'il ne laissera pas leur corps se décomposer, mais qu'il les ressuscitera, qu'il les fera revenir à la vie, physiquement, qu'il les revêtira d'un corps incorruptible, semblable au sien. Mais quelle perspective glorieuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir, si vous croyez en Jésus, qu'un jour vous serez ressuscité corporellement? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un jour, Jésus vous ressuscitera pour que vous soyez avec lui corps et âme pour l'éternité? Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, ce qui concerne la volonté du Père. Quelle est cette volonté? Que Jésus ne perde aucun, rien de tout ce que le Père lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour, et que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est le verset 40 que nous avons lu. Que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous avez peut-être reconnu le passage de l'Ancien Testament auquel Jésus fait référence. Nous l'avons lu tout à l'heure, en début de culte. En fait, il s'agit de Nombre 21. Jésus fait ici allusion, à mon sens, à un épisode de l'Ancien Testament, à cet épisode que nous avons lu, où Dieu envoie des serpents venimeux, peut-être pas des vipères, mais en tout cas des serpents venimeux, en signe de jugement contre son peuple qui a mal parlé, qui a péché contre Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a lu? Et le seul moyen d'échapper à la mort provoquée par la morsure, par le venin de ces serpents venimeux, vous vous rappelez ce que c'était? C'était de regarder, de fixer les regards sur un serpent de bronze qui est élevé sur une perche, sur un bout de bois tenu par Moïse, en fait. C'est un acte de foi grâce auquel le peuple pouvait être sauvé de la mort provoquée par la morsure et le venin du serpent. C'est un dispositif assez bizarre, n'est-ce pas, hors contexte. Mais quand on lit le reste de la Bible et le Nouveau Testament, en fait, c'est un dispositif, si j'ose dire, qui prend tout son sens. Comprenez? Ce serpent de bronze est en fait ce qu'on appelle une préfiguration. Ça préfigure, ça annonce ce que Jésus a fait lorsqu'il a été élevé sur une croix, sur un bout de bois, pour être crucifié. Si bien que le seul moyen pour nous aujourd'hui d'échapper à la mort, non pas provoquée par la morsure, la venin des serpents, mais le seul moyen pour nous d'échapper à la mort provoquée par la morsure et le venin du péché, le seul moyen d'échapper à cette mort, c'est de fixer nos regards, c'est de regarder, de considérer du regard, de porter de l'attention à ce que Jésus a fait pour nous. C'est le seul moyen pour nous d'avoir la vie éternelle, d'être en relation avec Dieu, d'être en paix avec lui, d'être réconcilié avec lui. Alors, quel que soit notre stade, le stade auquel nous sommes, si nous sommes croyants, même si nous sommes non-croyants, et si vous ne croyez pas en Jésus, et si vous vous posez des questions, peut-être, ce qui est tout à fait légitime, hein, je me suis posé 1000 questions avant de devenir chrétien, hein, ça a pris un an et demi en tout. Quel que soit le stade auquel nous sommes, pourquoi ne pas profiter de cette période de Noël qui est appropriée, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas profiter de cette période de Noël pour fixer nos regards sur Jésus crucifié, élevé, et pour croire en lui, ou pour être renouvelé dans notre confiance en lui? Pourquoi ne pas profiter de cette période pour penser à Jésus, pour méditer, pour réfléchir au sens de sa mort sur la croix, pour comprendre peut-être, et pour croire que sur cette croix, Jésus a fait la volonté du Père. Il s'est soumis jusqu'à la mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà donc le message de Noël. Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Et quelle est cette volonté? Que Jésus ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Et que quiconque et que toute personne qui voit, qui regarde et qui croit en Jésus et la vie éternelle. Bref, c'est Noël, quoi. C'est vraiment Noël. C'est vraiment Noël. Tout ça, Dieu le Père nous l'offre gratuitement par l'intermédiaire de son Fils. Ce sont des cadeaux de Dieu. Gratos. Gratuit. Mais cela ne veut pas dire que cela ne lui a rien coûté. Mon père qui est venu nous rendre visite à l'occasion de la naissance de notre première petite fille nous a fait un très beau cadeau à Meg et à moi. Vous savez ce qu'il nous a acheté? Il nous a acheté une voiture pour Noël. Une voiture. Je ne vous dirai pas le prix, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça lui a coûté assez cher. Ok? Est-ce que vous avez vu La Liste de Schindler, ce film de Steven Spielberg, qui est très émouvant? Je l'ai vu Noël dernier, je crois. Oscar Schindler, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est un industriel allemand qui est membre du parti nazi et qui, en fait, commence à sacrifier une partie de sa fortune pour employer certains prisonniers juifs promis à la mort. Si bien que, sans son intervention, beaucoup de juifs seraient morts. Et en fait, en employant des prisonniers dans sa propre usine, à ses propres frais, avec la complicité de son comptable Isaac Stern, il a réussi à sauver 1200 personnes de la mort. Et aujourd'hui encore, on se souvient d'Oscar Schindler. C'est une histoire très émouvante. Sans son intervention, ces gens-là seraient tous morts. Eh bien, Jésus est allé beaucoup plus loin qu'Oscar Schindler, ou même que Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a pas simplement sacrifié quelques repas luxueux, le temps de quelques soirées à l'Élysée. Il n'a pas sacrifié simplement une partie de sa fortune. Il a sacrifié sa vie, lui qui était Dieu en personne, lui qui était le seul à même de nous pardonner. Il a sacrifié sa propre vie, lui le juste, lui l'innocent. Il a payé, il a souffert, il est mort pour les injustes, pour les coupables que nous sommes, pour le coupable que je suis. Il a accepté de subir à ma place le juste jugement que je méritais pour ma désobéissance. Il a donné sa vie en rançon pour payer le prix de cette désobéissance. Pour m'offrir gratuitement, pour vous offrir, pour nous offrir gratuitement le pardon dont nous avons désespérément besoin. Pour être en règle avec Dieu, pour être en paix avec lui, pour être réconcilié pour l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, s'il te plaît, à comprendre la profondeur de ton sacrifice. Aide-nous à comprendre le sens profond de Noël, le jour où tu es descendu du ciel pour faire la volonté du Père, pour mourir pour nous, pour ressusciter et donner l'assurance à tous ceux qui croient en toi qu'ils auront la vie éternelle, qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils ressusciteront le dernier jour. Pour être avec toi pour l'éternité. Tout ça, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.